Alors voilà 20 ans que je partage dans les prédications la préoccupation de notre environnement, de ce cadre magnifique de la Terre et de l'univers donné par Dieu. Je prêche sur ce sujet une fois par an, alors que je pourrais le faire tous les dimanches, tant ce sujet m'habite. Ce n'est pas une angoisse, comme pour certains qui parlent d'éco-anxiété. Mais c'est un sujet présent dans mon quotidien. Par exemple, dès que je veux jeter quelque chose à la poubelle, je choisis le tri. Dès que je veux acheter quelque chose, je réfléchis, j'évite de le faire par Internet. Quand je me fais à manger, j'essaye d'éviter les plats tout près, j'essaye de manger du bio. Quand un appareil est cassé, j'essaye de le faire réparer au lieu de le racheter. Et quand j'envoie des mails, j'essaye d'éviter de faire répondre à tous quand c'est possible. Vous savez que je prends l'escalier pour monter chez moi. On l'a bien décoré pour avoir envie de prendre l'escalier avec les jeunes. Je prends le vélo quand je peux éviter la voiture. Et le train quand je peux éviter la voiture aussi. Et parfois, je prends quand même le métro parce que j'ai mes limites. Et tout cela, évidemment, je le fais sans radicalité, avec de la souplesse. Et aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel chacun et chacune se penche à sa mesure. On fait les efforts qu'on peut ou qu'on veut selon nos priorités personnelles ou professionnelles. Pourtant, le constat actuel nous oblige à réfléchir à nos limites. Et je redonne cette phrase que vous avez entendue bien des fois. On ne peut pas poursuivre un développement infini dans un monde fini. Le texte de la Genèse dévoile un fantasme éternel et puissant de l'être humain, être comme des dieux. C'est bien ce que le serpent suggère à la femme. Vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Alors je ne m'attarderai pas sur l'histoire du discernement. Même si on peut se demander comment est-ce que la femme peut discerner quelque chose avant même qu'elle reçoive ce qui est bon ou mauvais. Mais bon, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. J'aimerais plutôt parler des dieux qui sont des êtres immortels, qui sont des êtres sans limites. Et même si ce texte a été écrit il y a plus de 2500 ans, eh bien, on retrouve intact aujourd'hui le désir d'être immortel et d'être sans limite. Et notre foi chrétienne nous rappelle que non, nous ne sommes pas des dieux et que nous sommes des êtres humains. Et c'est en Jésus-Christ qu'on peut voir ce qu'est un être humain. Même si le qualificatif de fils de Dieu lui a été donné après la résurrection, après sa vie sur terre, il a d'abord été un homme véritable, limité et mortel. Et il nous montre qu'un être humain est celui qui accepte la limite. Il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Alors cette phrase a résonné en moi pour ce temps de réflexion sur la création. Le mot que l'on traduit par proie en grec peut se traduire aussi par butin, vol. La proie, elle est faite pour être prise, souvent par violence. Et cela m'a amené au mot prédation quand on parle de certains agissements de l'humain sur la planète. Cette phrase résonne avec le récit de la Genèse. La femme voit que l'arbre est bon à manger. C'est ainsi que c'est écrit. Son discernement, finalement, ne servira qu'à une chose. Elle va découvrir son dénuement à travers sa nudité, sa limite dans la fragilité. La femme a consommé ce fruit et nous passons notre temps à consommer ce qui vient de la terre et qui n'arrive plus à se régénérer. Comme elle, nous n'avons pas envie d'avoir de limites. Pas de limite pour nos achats qui nécessitent des transports rapides, pas de limite pour la consommation en tout genre qui nécessite les importations du bout du monde. Pas de limite pour nos voyages, qui sont beaucoup moins chers qu'avant, notamment en avion. Les subventions des États pour les compagnies aériennes encouragent un trafic encore plus intense. Pourtant, le 1er août de cette année marque la date à laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en une année. Autrement dit, pour régénérer ce que l'humanité consomme, il nous faudrait 1,75 terres en termes de surface. Pour les 5 mois restants, l'humanité vivra dans le rouge en entamant le capital naturel nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Nous sommes tous héritiers des actions des générations précédentes, mais nous avons aussi un impact sur ce que nous allons laisser aux générations suivantes. C'est notre responsabilité, même si nous avons du mal à imaginer que chacune de nos vies peut avoir des conséquences dans le reste du monde, surtout dans nos pays riches. Il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Le Christ nous montre un chemin de vie, et choisir la vie, c'est accepter nos limites. À quoi ? C'est savoir à quoi je veux passer mon intelligence, au service de quoi je mets ma capacité à réfléchir. C'est vrai que le jour où j'ai dit à un marchand « Je ne prends pas vos pommes parce qu'elles viennent d'Argentine », ça ne lui a pas plu. Mais mon intelligence, elle peut servir à ça aussi. Et la question, c'est aussi comment trouver le juste équilibre entre l'intelligence et la curiosité que Dieu nous donne pour améliorer la vie humaine et la limite à ne pas franchir, à vouloir être comme des dieux. En suivant le Christ, une préoccupation ne nous quitte plus, c'est celle de l'autre, du prochain, de celui qui subit des violences et des injustices. Et cette préoccupation a toute sa place dans le souci du développement durable. Combien de populations doivent se déplacer à cause des dérèglements climatiques ? Voulons-nous les accueillir chez nous ? Combien de petites mains doivent subir et retirer des images insupportables pour nous permettre de profiter des réseaux sociaux ? Combien d'injustices pour la bataille de l'eau, simplement de l'eau ? La démultiplication des possibilités humaines se fait dans de nombreux domaines, avec toujours l'envers du décor, avec toujours des personnes qui en payent les conséquences. Alors nous sommes appelés à réfléchir aux conséquences de nos choix et à réfléchir aussi à ce qu'on pourrait ne pas faire. Je me souviens, il y a quand même bien longtemps, avant l'apparition d'Internet et des ordinateurs, donc j'étais jeune, d'avoir éprouvé un grand sentiment de liberté en appuyant simplement sur le bouton de la télévision pour l'éteindre et du coup en me sauvant tout le temps de mon après-midi que je n'aurais pas à passer devant la télé. Oui, il fallait de la volonté pour appuyer sur le bouton. Et encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut se débrancher ? Est-ce qu'on peut ne pas faire ce qui serait pourtant dans nos capacités ? Ne pas acquérir ce qu'on pourrait avoir ou acheter ? En avons-nous vraiment besoin ? Manger le fruit, c'est savoir qu'on peut consommer sans en avoir vraiment besoin. Et aujourd'hui, eh bien, on sait que nos excès, que par nos excès, notre planète en pâtit. Alors, Jacques Ellul appelle cela le pouvoir de la non-puissance. Je cite un article du journal L'Hebdo, La Croix sur Ellul. Donc Ellul était un professeur, un théologien, etc. Il avait plein de casquettes. Contraire de la passivité, la non-puissance est une posture de refus positif qui permet à chacun de reprendre en main son action à sa place et à son niveau, en allant non vers le plus, mais vers le mieux, en renonçant à poursuivre l'illusion d'une toute-puissance qu'Ellul réserve à Dieu. Il encourage aussi à identifier ce qui nous domine. Entendons-nous comme la femme des voix séductrices qui nous encourage à consommer ? Le téléphone portable me domine-t-il ? Les réseaux sociaux me dominent-ils? Suis-je capable de m'en passer un moment? Et c'est vrai qu'en ce moment, particulièrement, quand je vois les gens dans la rue qui sont sur leur téléphone, et ça arrive de plus en plus, et j'ai remarqué qu'ils sont capables de faire des jeux sur leur téléphone en marchant. Ou alors ils lisent des choses, ou c'est les réseaux sociaux. Je me dis, est-ce que j'ai envie de participer à cette société-là? Est-ce que j'ai envie de me couper de toute la vie que j'ai quand je sors de chez moi? Parce que chez moi, je peux faire évidemment ce que je veux, mais quand je sors de chez moi, je respire de l'air. Alors il est un peu pollué, mais quand même, on a quand même de l'air à respirer, on a des gens à rencontrer. Ça m'interroge énormément. Il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, reconnu à son aspect comme un homme, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'avantage de suivre le Christ, c'est que nous ne sommes pas seuls avec nos questions. Le lâcher-prise implique que nous soyons accueillis par ce Dieu Père que Jésus est venu révéler. Nous sommes les êtres que Dieu a créés. Avec tout l'environnement qu'il nous faut pour vivre, il ne nous laisse pas seuls. Il continue à nous inspirer, à inspirer tous ceux et celles qui désirent mettre leur intelligence au service de la vie. Alors, j'ai eu envie de terminer avec une belle découverte pour nous montrer combien on gagne à observer l'environnement, la nature. C'est la théologienne Elisabeth Parmentier qui l'a partagée dans le Réforme du mois de mars dernier. Cela met en avant notre capacité d'observation et de nous poser des questions. En regardant sur la plage des petits vers, vous avez peut-être déjà vu sur la plage des petits vers qui apparaissent et puis ils disparaissent au moment où la marée les recouvre. Et donc, elle raconte qu'un chercheur s'est posé la question, comment se fait-il que ces petits vers continuent à vivre malgré le fait que pendant 6 heures, ils sont recouverts par l'eau? Et ce chercheur a découvert que la molécule d'hémoglobine, alors l'hémoglobine, donc on se rappelle un peu, c'est une protéine riche en fer qui assure le transport de l'oxygène du sang, dans le sang. Son hémoglobine de ce petit ver était 250 fois plus petite que la nôtre, mais pouvait transporter 40 fois plus d'oxygène que le sang humain. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on va en faire? Cela ouvre des perspectives extrêmement prometteuses pour, notamment dans la médecine, pour les greffes, pour l'acceptation des greffes. Évidemment, l'être humain, quand il a quelque chose dans les mains, il est capable de s'en servir pour le meilleur et pour le pire. À nous de faire nos choix et d'alerter ceux qui nous entourent sur ces choix. Elisabeth Parmentier en tire cette réflexion. Face à la nature, comme souvent, l'autosuffisance s'en trouve renversée. Les enseignements de la création et ses créatures sont à découvrir. Alors oui, cela nous encourage à l'observation de ce qui nous entoure et à nous en émerveiller. Et peut-être cela nous donnera-t-il le courage, de la sobriété pour préserver ce qui existe encore. Nous ne sommes pas des dieux. Assumons notre humanité. Amen.